Bonsoir François Boileau, vous venez de donner une conférence sur Champlain. Vous êtes commissaire au service en français. Alors est-ce que d'abord, bon, je m'en veux de vous demander de répéter ce que vous avez dit un petit peu pendant la conférence, mais est-ce que vous pouvez expliquer aux auditeurs de Choc FM ce qu'est votre tâche en tant que commissaire donc au service en français?
Bien sûr. Alors, comme commissaire, je reçois des plaintes du public, d'abord et avant tout. Donc, n'importe qui fait affaire avec le gouvernement de l'Ontario, des institutions ou des organismes qui travaillent pour le compte du gouvernement de l'Ontario qui ne reçoivent pas un bon service en français ou qui ne sont pas certains d'avoir reçu une bonne communication en français, ils peuvent faire affaire avec mon bureau et nous allons tenter de traiter de ces plaintes-là et de faire des changements, tant au niveau des plaintes qu'au niveau systémique.
Alors, vous disiez tout à l'heure que vous recevez en moyenne une plainte par jour. Un exemple de plainte, par exemple, que vous pouvez traiter?
On reçoit une panoplie de plaintes différentes, que ce soit des plaintes pour des erreurs sur des sites Internet ou des documents qui ne sont pas traduits, comme des plaintes qui sont beaucoup plus systémiques, comme par exemple un manque de centres de santé communautaire en français dans une région donnée, ou encore des plaintes qui sont vraiment très individuelles, comme manque d'accès à la justice en français, ou encore qui sont plus troublantes, là, c'est concernant de la garde d'enfants ou encore des sociétés d'aide à l'enfance qui vont prendre des enfants unilingues, francophones ou bilingues, mais pas nécessairement anglais, âgés de 2 ans ou 4 ans et qui sont envoyés dans des foyers d'accueil anglophones. Donc ça, c'est le genre de plaintes qu'on tente de travailler de façon très sérieuse, bien sûr, le plus rapidement possible.
Alors ce soir, vous étiez là pour parler de Champlain et de la vision qu'il aurait de l'Ontario aujourd'hui. Champlain était un grand navigateur, un grand marin, un grand administrateur aussi. Et vous avez bien insisté là-dessus, donc quelqu'un qui avait une vision très pacifiste de la cohabitation avec les Premières Nations. Donc, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce sujet? En quoi il était précurseur là-dessus?
Oui, bien, je pense qu'il a été témoin, lui, des guerres de religion en Europe. Et ça l'a beaucoup marqué. Et ce qu'il a également marqué, c'est lors de ses voyages, ses premiers voyages, il était également accompagnateur, si on veut, des vaisseaux espagnols en Amérique centrale et en Amérique du Sud. Et il a vu le traitement réservé aux Premières Nations de ces coins-là. C'est des massacres épouvantables. Il a été témoin également de l'horreur du traitement réservé aux esclaves noirs venus d'Afrique pour faire la pêche des perles. Et également, donc, il avait tout ça en tête. Il voulait, je pense, faire un monde nouveau où les Premières Nations seraient traitées comme des partenaires et non pas seulement en arriver comme un conquérant. Donc, c'est cette question d'une vision très humaniste de la communauté et du territoire. Ça se reflète même dans ses dessins, des cartes qu'on trouve de Champlain. Contrairement à tous les autres explorateurs, Champlain, lui, dessinait les villages autochtones sur ses cartes. Tandis que les autres dessinaient des choses à la gloire de leur empire, de leur royauté, ou encore même des gravures sur eux-mêmes, hein, des genres d'autogravures. Champlain n'en faisait aucunement. C'était simple, mais c'était extrêmement détaillé, mais ça représentait bien les villages autochtones. Donc, ça donne une idée du type de Champlain. C'est que pour lui, les détails étaient importants, mais l'humanité était importante aussi. Et c'est pour ça que Champlain envoyait des jeunes gens vivre dans les communautés autochtones, pour vraiment apprendre leur langue, apprendre leur culture, apprendre leur religion, leurs coutumes, leurs valeurs, de façon à créer donc une cohabitation entre les Français et entre les Premières Nations.
D'accord. Alors vous disiez que Champlain serait sûrement fier de voir ce que la francophonie est aujourd'hui, malgré bon, quelques déboires, on va dire, notamment de la vision inclusive de la francophonie en Ontario.
Oui, bien, ici en Ontario, on a une définition inclusive depuis 2009 qui fait en sorte que c'est des francophones qui viennent d'ailleurs et qui parlent peut-être une autre langue maternelle, que ce soit le créole, s'ils viennent d'Haïti, que ce soit, bien sûr, l'arabe, s'ils viennent des pays du Maghreb. Alors, ils viennent, ou le roumain, s'ils viennent, bien sûr, de Roumanie, hein, naturellement. Alors, s'ils arrivent ici, qu'ils parlent, donc, qu'ils ont ces langues maternelles-là, mais qu'ils parlent également le français à la maison. Au fédéral, ils sont considérés comme étant des allophones, tandis qu'en Ontario, maintenant, depuis 2009, sont considérés comme étant des francophones. Pourquoi? Parce qu'ils vivent en français. Dès qu'ils mettent le pied dehors de leur maison, ils communiquent en français, ils envoient leurs enfants dans les institutions francophones, ils écoutent Choc FM. Bref, ils participent aux activités de la communauté en français. Pourquoi ne pas les considérer comme étant des francophones? Ce qui fait en sorte que ça a permis de recenser environ une cinquantaine de milliers de personnes qui autrement seraient considérés comme étant des allophones, sont des francophones en Ontario. Et ça, c'est très inclusif. Et maintenant, il y a d'autres provinces qui regardent avec beaucoup d'intérêt ce que l'Ontario a fait comme étant précurseur et qui sont vivement intéressés par ce qu'on a fait ici.
Donc là, on a parlé un peu des points positifs de votre conférence, mais vous avez aussi longuement insisté sur les autochtones et peut-être le fait que Champlain serait très surpris, voire déçu de voir le traitement qui leur a été réservé historiquement. Comment ou pourquoi il y a eu une régression depuis cette vision un peu humaniste de l'explorateur?
Je ne sais pas si on peut dire que Champlain était précurseur ou avant-gardiste, ou parce que je pense pas qu'il se voyait lui-même comme ça. Et c'est très difficile de porter un jugement sur des actions de nos ancêtres à tout le monde. Alors, aujourd'hui, on peut analyser ça avec notre œil d'aujourd'hui, mais à l'époque, c'était la chose normale à considérer. Et pour l'ensemble des Européens, les Premières Nations étaient des gens qui n'avaient pas d'âme et des gens qui étaient qui avaient une absence complète de valeur, de morale, des jeunes filles qui pouvaient avoir plusieurs partenaires avant de trouver leur partenaire. On ne pouvait pas imaginer ça à l'époque. Donc, les Premières Nations étaient vues d'une façon très différente de la part des Européens. Et lorsque tout est question de territoire, une question d'argent, une question de pouvoir occuper un territoire, les premiers traités qu'on avait bien longtemps après la mort de Champlain, que ce soit sous le régime de la Nouvelle-France ou que ce soit sur le régime anglais, la plupart des traités qu'on avait donc avec les Premières Nations étaient des traités qui étaient quand même assez sensés. Mais au fur et à mesure que les Premières Nations, qu'on voyait des nouveaux arrivants qui occupaient de plus en plus de territoires et des bonnes terres, on revisitait ces traités-là. On revisitait donc ce qu'on pouvait octroyer à ces Premières Nations-là. Donc, et on a tenté de régler le problème indien, je le mentionne entre guillemets, parce que c'était comme ça qu'on parlait à l'époque aussi. Et je ne dis pas que c'était une mauvaise chose. Bien sûr, c'est une mauvaise chose aujourd'hui, avec nos yeux d'aujourd'hui. C'est même épouvantable, les traitements qu'on a faits historiquement aux Autochtones. C'est pour ça que je suis content de voir qu'en 2008, le gouvernement fédéral s'est officiellement excusé auprès des Premières Nations, notamment pour le traitement réservé à l'égard des écoles résidentielles. Les écoles résidentielles, c'était des endroits où on prenait des très, très jeunes enfants, on les retirait de leur milieu pendant des années, 5, 6, 7 ans, 8 ans. On les retirait de leur milieu, on les interdisait de parler leur langue, interdisait de vivre leurs coutumes, de vivre leur religion, interdisait même de manger de la viande dite sauvage. Et donc, ils étaient sévèrement punis lorsqu'ils faisaient quelque chose qui était typiquement de leur religion. Alors imaginez ces jeunes-là qui retournent dans leur communauté, qui ne parlent plus la langue des sages, des vieux sages, des elders, qui sont là pour aider à la transmission des valeurs et des coutumes. Ces jeunes-là, on parle de générations de gens qui ont été perdus et qui ont eu de la misère à se retrouver. Alors, pas étonnant qu'on a autant de fléaux au sein des communautés autochtones. C'est très facile de les blâmer, mais il faut vraiment regarder historiquement notre rôle à nous qu'on a eu dans le passé.
Vous dites qu'il faut balayer devant sa porte et il faut aussi peut-être se demander le rôle que les écoles résidentielles, par exemple, ont joué dans la perte de certaines langues, parce que vous avez parlé aussi de certaines langues autochtones qui ont été perdues, parce que tout simplement les dernières personnes qui les parlaient sont mortes.
Absolument, j'ai été témoin moi, de la disparition du Tagish. Lorsque Angela Sidney, en 1991, elle est décédée, elle était la dernière personne sur la planète à parler le Tagish. C'est spectaculaire là, quand on y pense, pas dans le bon sens. Là. Une langue est décédée lorsqu'elle est décédée. Et ça, ce sont des drames humains incroyables. Et c'est pour ça qu'il faut protéger, bien sûr, les langues et les cultures autochtones, les coutumes autochtones, parce que c'est une richesse incommensurable pour l'humanité, pas juste pour nous, mais pour l'humanité. Et ça, de perdre ça, je suis très sensible, bien sûr, comme au service en français, ça peut sembler un peu loin, mais non, c'est très relié.
Alors, je voulais vous demander aussi, pourquoi Champlain et pourquoi vous pensez qu'on devrait étudier son œuvre et sa pensée aujourd'hui?
Bon, je pense qu'il est de plus en plus actuel de regarder des gens qui avaient une vision, qui regardaient aussi ce côté très humaniste que Champlain avait. Au-delà de toutes ses qualités, bon, bien sûr, il n'était pas parfait, hein, c'était même pas quelqu'un qui était plein de défauts, et lui aussi, c'était un homme de son temps. Mais en même temps qu'il était un homme de son temps, il voyait loin. Et il voyait loin, pas parce qu'il se disait visionnaire lui-même, non, mais parce qu'il avait un plan. Il avait un plan très clair pour l'Amérique française. C'était un plan de cohabitation. C'était un plan où où des peuples pouvaient coexister, cohabiter, et que l'un apprendrait de l'autre. Pas que l'un supplanterait l'autre. Et ça vaut la peine aujourd'hui de considérer cette œuvre-là, cette pensée-là, pour voir comment est-ce que maintenant on pourrait, pas refaire le passé, mais apprendre du passé, et donc se doter d'outils ou de balises qui nous permettraient d'aller l'avant. Et Champlain nous offre un paquet de ces balises-là.
C'est vrai que c'est un message très actuel. Pour finir, n'hésitez pas à utiliser les services en français, peut-être.
Bien sûr, évidemment, lorsque vous faites affaire avec le gouvernement provincial de l'Ontario, ne pas hésiter à demander vos services en français si vous avez un problème, un enjeu. Communiquez avec nous, on est très facile à rejoindre. Vous tapez « commissariat service français » sur n'importe quel moteur de recherche et vous allez nous trouver immédiatement. Sinon, c'est csfontario.ca. Ça aussi, c'est très facile. Alors, j'invite vos auditeurs et auditrices à faire affaire avec notre bureau. On a besoin de vous. Merci.
Merci beaucoup.